Oui, bismillah marahim. On a parlé sur les écoles juridiques. Et on a parlé pourquoi nous devons suivre une école. Et quelles sont les écoles juridiques qui régissent, qui ont régi notre jurisprudence pendant, on va dire, 13 siècles et quelques. Et que toute notre histoire a été régie par ces quatre écoles. Donc l'école Hanafite en premier, Imam Abu Hanifa. Ensuite l'école, presque en même temps, l'école Malikite, l'école Shafi'ite, l'école Hanbalite, et on a parlé brièvement de spécificité de chaque école, et que géographiquement, où elle se situe, et pourquoi il y a les quatre écoles, pourquoi ce n'est pas une seule école, parce qu'avant, bien avant, on a dit qu'il y avait plusieurs écoles, il n'y a pas qu'une seule école. C'est l'école de jurisprudence, l'école d'Imam al-Awza'i, Ibn Uyayna, Tabari, Sufyan Thawri. Et que ces écoles-là n'ont pas été travaillées par leurs disciples. Et une école, quand elle n'est pas travaillée par les disciples, elle meurt. Hein, c'est-à-dire, elle n'est pas... il n'y a pas des fatwas, il n'y a pas un suivi de la méthodologie de tirer les commandements. Donc, elle ne s'adapte plus au temps. Hein, parce que l'école, elle doit se revoir. Hein, c'est-à-dire, les grands savants de chaque école doivent revoir leurs fatwas en les changeant, en les adaptant selon le temps hein, et l'espace, selon l'espace-temps. D'accord ? Et pour cela, l'imam Shafi'i, quand il était en Irak, il a fondé son école. Bon, quand on dit fondé son école, c'est pas qu'il va faire une construction. Non, c'est qu'il a une méthodologie, il fait des règles, il fait des bases, de la façon comment il doit tirer les commandements du Coran et de la Sunna, et comment répondre aux questions qui sont posées en s'inspirant du livre saint et de la Sunna. Et cela n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir des conditions. Il faut remplir des conditions. Et ces conditions-là, dans les ouvrages manuels de Usul Fiqh, qu'on appelle celui qui fait cela, il s'appelle un mujtahid mutlaq. Donc, ces écoles-là, ces mujtahidines, ces grands savants qui ont la capacité de tirer les commandements directement du livre saint et de la sunna, c'est pas n'importe quel savant qui peut le faire, d'accord? Il doit remplir des conditions draconiennes, on va dire, d'accord? Et c'est pour cela qu'on trouve la majorité des savants dépendent d'une école. Donc vous ne trouvez pas un savant qui est comme ça, en plein air, voilà. Alors, si c'est un savant qui est arrivé au stade de tirer directement les commandements du livre de la Sunna sans être cadré dans une école, donc il remplit ces conditions-là, qui sont, j'ai dit, des conditions, on a cité quelques-unes la dernière fois, il faut maîtriser les lectures, différentes lectures du Coran, il faut maîtriser parfaitement la langue arabe, et quand on dit parfaitement la langue arabe, c'est pas savoir l'écrire et lire, hein, c'est la maîtrise de tout. Il y a plusieurs sciences dans la langue arabe, sur la grammaire, la rhétorique, je ne sais pas comment on traduit ça, l'arabe, le nahw, le safr, le bayan, l'istiara. Donc il y a beaucoup de disciplines, et chaque discipline, je ne vous dis pas, hein, c'est un monde, c'est un océan. Alors ça, c'est juste la langue arabe. Et vous avez à côté la science du Coran, il y a plusieurs sciences du Coran, il faut les maîtriser, parce qu'on a affaire à un texte. Et quand on a affaire à un texte, si on n'a pas les outils qui nous permettent de tirer le commandement de ce texte-là, donc on risque de passer à côté de quelque chose qui est important que Allah Azzawajal veut nous faire passer à travers ce message. C'est pour cela que ceux qui ont rempli toutes ces conditions-là, donc je vais parler des conditions de langue arabe, des conditions de lecture du Coran, des conditions des sciences du Coran et des conditions des sciences du hadith. Parce que le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith c'est quoi? La sunna. Tout ce que le prophète a dit, tout ce que le prophète a fait et tout ce que le prophète a autorisé. Il n'a pas dit, il n'a pas fait, mais un de ses compagnons a fait quelque chose devant lui, donc il l'autorise, ou bien lui dit rien, lui interdit pas, donc ça devient un hadith, donc c'est confirmé. Donc, il faut avoir la maîtrise de cette science, la science du hadith. La science du hadith, c'est plusieurs sciences, c'est plusieurs branches, la science de la transmission, la science des études de texte, la science des études des narrateurs, la science, on appelle l'ilal, les défauts cachés qui ne peuvent pas apparaître, c'est une science très pointue, que rares sont les savants qui sont spécialisés dans cette science, donc même la science du hadith, donc c'est plusieurs sciences, et il faut être un hafiz au minimum, c'est-à-dire connaître, mémoriser, avec chaîne de transmission, 100 000 hadiths, et connaître chaque narrateur, vous avez une fiche sur lui. Donc, pour vous dire que ce sont des conditions très 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 sévères, très sévère. Pour avoir cette faculté, c'est pour cela qu'on n'a pas beaucoup d'imam Shafi'i. On a un seul imam Shafi'i, un seul Abu Hanifa, un seul imam Malik. Donc les grands savants qui ont la maîtrise de toutes ces disciplines-là ont l'autorisation de faire des règles, une méthodologie afin de discuter, on va dire, afin de tirer les commandements du texte coranique et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres savants qui viennent derrière, ils suivent cette façon et cette méthodologie. Ils peuvent être d'accord ou ne pas d'accord avec le fondateur, bien sûr. S'ils ont trouvé quelque chose qui est plus, un argument plus solide, et qu'il y a des débats au sein même de l'école. Hein. C'est pas parce qu'on a la même méthodologie qu'on va être d'accord sur tout. D'accord, on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. Et ça, vous allez le trouver, Inch'Allah, en deuxième année, quand on va étudier au son le faire. C'est-à-dire, il faut étudier les fondements de la jurisprudence. Quand vous allez étudier ça, vous allez comprendre pourquoi il y a ces écoles-là et comment ils ont été fondés, etc. Tout cela pour dire que nous, à notre niveau, on n'étudie pas ça. On va étudier le fiqh, la jurisprudence. C'est-à-dire que comment nous allons faire les ablutions, comment on fait la prière, comment on répare la prière, comment on jeûne, etc. Pour dire que tout cela n'est pas venu comme ça. Ce sont des grands savants qui les ont tirés du livre de la Sunna et qui nous ont dit ça, voilà, ça, l'origine de ça, c'est cela, il s'est tiré de tel verset, etc., etc. Donc tout ça, ils nous ont facilité, ils nous ont des petits livres comme ça, mais en vérité, eux, ils sont passés par des centaines et des centaines d'ouvrages, des centaines de savants. Je vous ai cité l'imam Abu Hanifa seul qui avait 4000 shaykhs. Donc il a étudié chez 4000 shaykhs. L'imam Malik, il avait 900 shaykhs. Donc ce n'est pas des gens qui ont passé leur temps dans des cafés ou à connaître un ou deux hadiths. Donc c'est des gens très pointus et que c'est des gens très purs aussi, c'est surtout. C'est des gens très purs, très 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 purs. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela, on l'a dit, j'ai fait un petit résumé pour ceux qui étaient absents la dernière fois. Alors aujourd'hui, comme nos cours, c'est jurisprudence et théologie, bien que j'ai toujours j'ai pas le mot théologie, c'est croyance, on va dire. D'accord. Donc ça, on en a parlé la dernière fois. Des écoles, et que nous, on, vu que le Maghreb et l'Afrique, une grande partie d'Égypte, suivent l'école malikite. Donc nous, on suit l'école malikite, vu que géographiquement, on se situe dans... Ça ne nous empêche pas, de temps en temps, de donner des avis hein, des autres écoles, etc. Et aujourd'hui, on va parler de la théologie. La théologie, si vous voulez, de la croyance. Alors vous avez entre vos mains un article qui parle... C'est une introduction à la croyance acharite. L'école du Tawhid sunnite. Alors, pourquoi on l'a appelé Ash'arite? Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on l'a appelé Ash'arite. Parce que le fondateur, c'est l'imam Aboul Hassan Ash'ari. On va parler de tout cela. Mais avant cela, avant d'arriver à cela, on va un peu parler de ce que c'est que la croyance musulmane. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de suivre... Quelle est la nécessité de l'homme vis-à-vis de la croyance? Avant de rentrer déjà, de parler de quelque chose d'école ou pas d'école, etc. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il a créé l'homme, l'être humain, il l'a créé pourquoi? Il nous a créés, il ne nous a pas créés pour lui rendre un service, hein, pour travailler sur la fin du mois, non. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jalla nous a créé pour l'adorer. D'accord. Alors l'homme, dans ce monde-là, s'il est intelligent, bien sûr, il doit se poser la question. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là? Où est-ce qu'il va? C'est des questions pertinentes. Il ne peut pas vivre comme des animaux, sur terre. Là, il se retrouve, hop, il va à l'école, il mange, il dort, il s'amuse, machin, ensuite il meurt, il va partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens, cette vie. Pas de sens. Donc, il doit y avoir quelque chose qui a un sens dans cette vie. Il doit y avoir quelque chose qui tient, qui a une explication. On doit avoir une explication de notre existence sur Terre. Alors, vous avez, dans l'histoire des humains, des êtres humains, vous avez les philosophes grecs, vous avez les philosophes romains, chacun essaie de donner une interprétation. Même aujourd'hui, les contemporains, vous avez les gens athées, machin... Plusieurs courants philosophiques, etc. Chacun donne sa façon de voir, son explication à cet univers, et comment aussi, il donne aussi la façon comment nous devons marcher aujourd'hui. Les théories économiques et tout ce que vous voulez, philosophiques, etc., c'est des approches, hein. Faites ceci, faites cela. Le marxisme a essayé de nous donner une approche philosophique, économique et sociale, comment nous devons circuler, comment nous devons nous organiser dans cette vie. Le capitalisme aussi essaie de nous donner des idées, etc. Toutes les idéologies, c'est ça le rôle, c'est des explications et de la façon comment ils aperçoivent l'homme, comment il doit fonctionner sur Terre. Et ils donnent des alternatives. Bon. Un jour, on va un peu parler de ces Corans-là. C'est important. On ne peut pas passer à côté. On va parler un petit peu du communisme, on va parler de la... C'est ça la croyance musulmane, hein. C'est pas connaître ça. Pas... On va détailler, bien sûr, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, etc. Ne vous inquiétez pas. Mais il est de notre devoir de parler un peu, on vit dans un monde, de notre entourage. On va parler un peu des idées capitalistes. Qu'est-ce que c'est que la pensée occidentale? On va parler un peu de Descartes. Pourquoi l'esprit cartésien? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? On va parler un petit peu de ce que a produit l'homme, en quelque sorte, et on va le comparer avec ce que l'islam propose comme croyance, et voir où se situe la justice, où se situe, on va dire entre guillemets, la logique, hein, parce que même la logique elle a ses limites, et où se situe la vérité. On est censé de poser les questions pertinentes, et l'islam accepte toutes les questions, sont les bienvenues, il n'y a pas de questions bêtes. C'est très important. Alors, toutes les religions, tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés avaient un seul message. C'est de rappeler à l'humanité l'unicité d'Allah. Qu'il n'y a de Dieu que Allah, et que tous les prophètes, y compris Rasulullah, Sina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont prophètes. Donc c'est ça le message que tous les prophètes ont ramené. Commençant par le premier prophète, Adam. Il a été envoyé à qui? À ses enfants. C'est ça le message. Donc comparons toujours l'humanité comme c'est des rails d'un train. Et vous avez un train sur les rails, à chaque fois que l'humanité, si on la compare à un train, à chaque fois qu'elle sort des rails, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète pour la remettre sur les rails. Les rails c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah, c'est la vraie croyance. Parce que l'homme est toujours orgueilleux, croit toujours être intelligent, et il invente des choses même dans la croyance. Il est dans la bonne croyance, hop, à un moment donné, oui, pourquoi on veut faire, c'est-à-dire... Pourquoi on ne va pas faire ceci, pourquoi on ne va pas faire des petites statues, juste machin, pour nous rappeler, etc. Et il tombe dans l'idolâtrie, il tombe dans les mauvaises croyances, adorer le soleil, adorer les statues, adorer tout ce que vous voulez. Et donc, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à l'humanité un prophète avec une jurisprudence spécifique. Donc la jurisprudence, tout ce qui est interdit, n'est pas interdit, la façon de prier et de jeûner, qui existe, c'est un prophète, n'est pas automatiquement la même qui va exister chez un autre. Donc, concernant la jurisprudence, chaque prophète a une jurisprudence spécifique. Par contre, la croyance, elle est la même chez tous les prophètes. Donc, on peut trouver des interdits dans une communauté qui nous ont précédés, mais je parle de la vraie croyance. Parce qu'en tant que nous, musulmans, nous considérons, avec fraternité, on le dit, avec clarté, que les textes qu'on a aujourd'hui, bibliques, ou de la Torah, etc., ce sont des textes faux, falsifiés. La main de l'homme a touché à ces textes-là. Fraternellement, on se met dans des tables rondes et on discute avec nos frères dans l'humanité, chrétiens ou juifs, et on leur dit, désolé, vos textes ne tiennent pas la route. Voilà pourquoi. Et si vous avez des critiques vis-à-vis de nos textes, bismillah, bienvenue, on discute. Il y a beaucoup de débats sur ça, on a eu beaucoup de débats. Les vrais textes qui ont été révélés aux prophètes, c'est des vrais. Donc Sidna Moussa a reçu une révélation. Il a eu des textes. Sidna Issa, la même chose. Sidna Ibrahim, la même chose. Donc tous les prophètes, il y a une différence entre messager et prophète. Le messager, il reçoit un message, donc un livre, des tables, etc. à transmettre. Un prophète n'est pas forcément un messager. Donc tout messager est un prophète et ce n'est pas tous les prophètes qui sont des messagers. Un messager, il a un message à passer. Mais le prophète, il est là pour rappeler les gens au droit chemin, et pour soutenir un prophète qui l'a précédé, ou bien qu'il est en même temps que lui. D'accord? Donc le prophète, il est là pour juste rappeler, et soutenir un messager qui l'a précédé, ou qui est avec, c'est-à-dire en son temps. Par contre, le messager ramène un message, d'accord? On va voir tous ces détails, hein, quand on parlera des messages, hein, ne vous inquiétez pas. Des messagers, et des prophètes. Ça, c'est juste une introduction. Donc, vu que tous les prophètes ont ramené le même message. Arrivé à Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, qu'est-ce que l'humanité était dans quel état? L'humanité était dans un état, elle était dans un état chaotique, point de vue croyance. C'est-à-dire, on a les chrétiens avec une religion qui, à travers le temps, hein, on aura le temps d'en discuter, si vous voulez, un jour, les critiques que nous musulmans en avance vis-à-vis du christianisme aujourd'hui, dans la croyance, sans parler de la jurisprudence, vis-à-vis du judaïsme aussi, Et critiquer ne veut pas dire toucher à la personne. Non, on a le droit de ne pas. D'accord, bien sûr, même les juifs et les chrétiens considèrent que le Coran n'est pas. Sinon, ils ne croient pas au Coran, sinon ce sont des musulmans. Ils ont des critiques, bien sûr. Et on les respecte. Mais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivé a trouvé que Allah Azza wa Jal, quand lui a envoyé la révélation, qu'il est prophète, l'humanité était dans une obscurité totale de l'idolâtrie et de la mauvaise croyance. On adorait les statues, on adorait le soleil, on adorait le feu, on adorait ceci, on adorait cela. Et ceux qui adoraient Allah Azza wa Jal, le Créateur, comme les chrétiens et les juifs, ils lui ont donné des qualificatifs d'homme, voire moins que l'homme. Ils sont rentrés dans l'anthropomorphisme, etc., etc. Reste une toute infime partie qui était en Arabie, qui sont restés dans la vraie croyance abrahamique, ils ont gardé cette croyance-là, toute petite partie d'hommes, ils ne sont devenus ni des idolâtres, ni des chrétiens, ni des juifs. Ils ont gardé la foi qu'il existe un tout-puissant, que rien ne lui semblable, mais ils ont perdu la jurisprudence à travers le temps. Ils n'existent plus. Et ça, on les appelle Ahlul Fitra. Les gens de la Fitra. Dont les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient partie. Notez-le bien ça. Les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient partie des gens de fitra. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au Coran al-Karim, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous ne punissons point, on ne punit pas, jusqu'à ce qu'on envoie un prophète. Azzawajal, il ne va pas punir les gens sans leur avoir envoyé un prophète qui leur rappelle l'islam, qui leur rappelle la jurisprudence, etc., etc. Donc il y avait une toute petite communauté, quand même, très 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 limitée, mais c'était des gens des Al-Fitra. Mais la majorité des gens, vraiment, qui baignaient dans l'injustice, c'était un monde, on appelle ça Al-Jahiliya. Al-Jahiliya, c'était un monde pire que sauvage. Le plus fort mange le faible, les femmes, elles avaient aucun droit, ça nous fait rire aujourd'hui, quand on essaie de nous donner des leçons, que l'islam opprime les femmes, etc. Mettez-vous dans un contexte historique, et vous allez voir l'audace que l'islam a imposée à une société qui enterrait les femmes vivantes, parce que c'est une honte. Il faut imaginer, quand l'islam vient, il dit non, la femme elle a le même droit que l'homme, voire plus, puisque le paradis est sur les pieds des mers. Donc, c'est quand même, il a bouleversé les traditions et les codes qui existaient à l'époque. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation, il a commencé à enseigner les gens la vraie croyance, le secret de notre existence, à savoir qu'il y a un Dieu, Allah. Bien que je n'aime pas beaucoup le mot Dieu, parce que ça a une connotation un peu de grec, latin, c'est un dios, etc. Parce qu'un chrétien, un juif, un bouddhiste lui dit Dieu, il lui dit, bon, je suis d'accord, il y a Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu lui dis Allah, il dit, non, là on commence à qualifier les choses, on n'est pas d'accord. Donc il faut qualifier les choses, il faut faire parler de Allah, d'accord. Donc, dire Dieu, oui, parce que chacun a sa définition de Dieu. Mais quand on dit Allah, ça y est, on qualifie, on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ses attributs dont on parlera, inshallah, au fur et à mesure de nos cours. Donc le prophète, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, reçoit la révélation, enseigne aux compagnons qui ont cru à sa prophétie. Bien sûr, quand un prophète vient, il faut qu'il ramène une preuve de sa prophétie. Sinon, chacun prétend d'être un prophète. On va parler, inchallah, de cela. On appelle ça des miracles. Beaucoup de compagnons de différents niveaux de la société qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie, ils sont convertis. Ils ont compris. Et les musulmans et les non-musulmans, ils ont compris le message de l'islam. Les non-musulmans, ils ont compris. Ils ont dit, écoute, toi, on a compris de quel Dieu tu veux parler. Mais ils n'ont pas cru à cela. Malgré, il y en a parmi eux qui ont vu des miracles. Ils ont vécu, ils ont vu par leurs propres yeux des miracles du prophète, mais ils n'ont pas cru. Par orgueil, par intérêt politique, économique, commercial, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenez aux gens la croyance, apprenez aux musulmans la vraie croyance. Donc toute la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à la Mecque, ces 13 années, c'était de renforcer la foi musulmane dans le cœur des musulmans et exposer et essayer de faire appel, faisait da'wah. Il Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant des émissaires, il envoyait même, il faisait appel même aux grands kuffars de Quraysh. Il les rassemblait, il leur parlait de l'islam, il leur parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur parlait du monde de l'au-delà, que ce monde-là a une fin, qu'il y a quand même une résurrection, qu'il y a un châtiment ou bien des récompenses. Et il leur parlait de tout cela, que concerne le monde de l'au-delà, on va en parler. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait aux gens le tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire le tawhid? C'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique dans son essence, il est l'unique dans ses actes, il est l'unique dans ses attributs. Rien ne lui semblable, ni dans son essence, ni dans ses actes, ni dans ses attributs. C'est très important de retenir cela. Kullu ma khatara bi dhalika fallahu bi khilafi dhalika. Alors c'est pas la peine d'imaginer. Allah azza wa jalla n'a pas de comment. Le comment c'est pour nous. D'accord. Comment non, le comment, c'est, il n'a pas de comment, d'accord. C'est très important de retenir cela. Le comment, c'est l'être humain, il est fait comme ça. Allah Azza wa Jal, donc c'est pas la peine de, parce qu'il nous renvoie dans tous les versets du Coran à méditer, à repenser, à réfléchir de ce que Allah Azza wa Jal pour découvrir, pour voir sa puissance, sa sagesse, sa science à travers ses créatures. D'accord. On voit, subhanallah, il nous renvoie à regarder, il envoie, bien sûr, les Arabes, regardez les cieux, regardez la terre, regardez les chameaux, comment il est fait, regardez, et en vous-même, ne voyez-vous pas, c'est-à-dire, c'est pas juste regarder, c'est vraiment regarder avec le cœur et la raison, hein, pas seulement avec les yeux, c'est-à-dire, regarde bien comment Allah Azza wa Jal t'a créé, regarde-moi le fonctionnement organique de tous tes organes, est-ce que c'est toi qui les as fait que le cœur va pomper comme ça l'oxygène, le sang il va monter au poumon, tout est fait d'une façon minutieuse, d'une façon très détaillée, et que le fonctionnement, mais c'est bizarre qu'il ait raté du bon, ben, c'est la nature, c'est comme ça, il n'y a pas de comme ça, on va parler de l'existence d'Allah Azza wa Jal, quand on va ramener des arguments rationnels de l'existence d'Allah Azza wa Jal, que c'est une aberration grave de ne pas reconnaître l'existence d'un créateur. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler de tout cela, et les versets, hein, il reçoit des révélations selon les circonstances. Le kofar il vient lui dire, écoute, on va siflana rabba, qui lui disent par exemple, nous on connaît notre Dieu, voilà une statue, voilà notre Dieu, il est une statue, elle a 2 mètres, elle est de telle couleur, etc. Et ton Dieu, on ne l'a jamais touché, on ne l'a jamais senti, on ne l'a jamais, mais c'est quoi ton Dieu déjà? Allah Azza wa Jalla fait révéler le Coran Karim. Sort Ikhlas. Qul huwa Allah. Dit Allah Azza wa Jal, il est l'unique. Allahu Samad. Toute chose a besoin de lui. Lam yalid, il n'est pas né. La naissance spirituelle des humains. Wa lam yulad, il n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et rien ne lui semblable. 3-4 versets regroupant tout le tawhid, toute la croyance. Rien ne lui semblable. Tout ce que tu penses, c'est pas comme ça. Donc c'est pas la peine de penser. Allah Azza wa Jal nous renvoie, comme dit Sidna Abu Siddiq, Al-Ajzu an al-Idraki idrakun, wal-bahthu fi dhati Allahi kufran wa ishrakun. C'est-à-dire le fait de ne pas penser à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, il ne faut pas penser à l'essence. Par contre, il faut penser à ce que Allah Azza wa Jal a créé, parce que on n'arrivera jamais. D'accord? Donc on a des définitions. On a, le Coran al-Karim a parlé des qualités, a parlé des attributs que nous devons attribuer à Allah Azza wa Jal. C'est très important. Donc nous devons croire. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de lui attribuer aussi? Donc, dans la croyance, on va étudier qu'est-ce qu'on doit lui attribuer et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de lui attribuer. Et qu'est-ce qui est autorisé. Ainsi que pour les prophètes aussi, ils ont des qualités. Quelles sont les qualités qu'on doit qualifier les prophètes et quels sont les défauts dont on n'a pas le droit de qualifier le prophète. Le prophète, c'est quoi? Quand même, c'est des modèles. C'est des hommes modèles. Puisqu'ils ramènent le message divin, donc nous devons les suivre. C'est vrai ou non? Et puis, nous devons les suivre. Alors, vous imaginez un prophète clochard qui boit de l'alcool, il couche avec sa nièce, sa fille, machin. C'est pas un modèle, ça. Hein? Je peux pas le présenter comme modèle pour mes enfants, celui-là. Alors, qu'on soit sérieux, quand même, dans les religions, quand même, qui nous ont précédés, qui disent cela. Et quand on voit quelques films, ça fait rire. des commandements et on passe. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont même pas dans la religion, qui sont, ils sont bien. C'est-à-dire, ils boivent pas beaucoup d'alcool, ils couchent pas avec les femmes, mais il est correct. Donc, il est mieux qu'un prophète défini par quelques religions. Faut être sérieux. Donc, un prophète, c'est un modèle. Il est d'une grande pureté, c'est quelqu'un de très pieux, et que les gens doivent suivre dans son comportement. Puisqu'on lui dit, faites ceci, faites cela. Alors, si lui, il est dans le dérapage, comment on peut le suivre? Donc, ça, c'est très important. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle. C'était un modèle parfait, l'homme parfait. Et les prophètes, ce sont des hommes parfaits. Très important de retenir cela. Alors il enseignait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses compagnons. À côté, il y avait bien sûr les Byzantins, il y avait les Perses, il y avait la philosophie grecque avant, etc. Donc il y avait une philosophie qui traînait, elle n'était pas dans l'Arabie, mais il y a quand même une philosophie. Dieu de la terre, Dieu du feu, Dieu tout ce que vous voulez, de l'amour, machin, etc. Mais il y a quand même des idées à côté, mais qui ne sont pas encore entrées en contradiction avec les musulmans, puisqu'on considère les musulmans comme des petits bédouins, bon, c'est des pauvres, parce qu'il y avait quand même de grandes puissances, les Byzantins et les Perses qui étaient là, hein, qui se battaient entre eux, etc., et que chacun a sa pensée, sa philosophie, etc. Alors, les musulmans, tout faibles, viennent bouleverser toute cette situation, non seulement le point de vue croyance, même quand vous lisez les livres de Sira, ils vont faire des guerres contre des puissances surarmées inimaginables. Vous avez 2000 soldats mal armés qui vont faire la guerre contre 200 000. Donc je vous laisse imaginer la situation, mais courageusement, ils vont faire une bataille de Mouta et qui vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui dans la stratégie militaire, c'est-à-dire... Ils vont pas rentrer dans un affrontement direct, mais ils vont fatiguer l'adversaire, puisqu'il est 200 000, ils vont faire bouger 200 000, etc. Mais les autres, 2 000, ils vont les fatiguer, ils vont pas faire la guerre avec eux, mais ils vont les nuire, c'est-à-dire au fur et à mesure, leur faire une bataille avec 400-500 personnes la nuit, le lendemain avec 200, donc ils les ont fatigués, et ils ont, bien sûr, on va dire, ils ont gagné cette bataille de Mouta. On en revient, si vous voulez, un jour sur cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enseignant le tawhid à ses compagnons, il n'avait pas de problème dans la communauté musulmane, des gens qui devenaient musulmans, qui discutaient, c'est très important, ce que le prophète leur enseignait, point de vue croyance. Puisque c'est Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, qui lui enseigne. Il l'enseigne. La croyance, il lui enseigne la jurisprudence, et en lui enseignant la croyance, la jurisprudence, tenez, il y a une chose ici. Il leur enseigne, le professeur enseigne donc la croyance, et les sahaba comprenaient ce que c'est l'unicité, ce que c'est cette vraie croyance, et l'adaptaient, et la comprenaient. Même, ils la défendaient, puisqu'ils l'ont bien compris. Ils comprennent très très bien, parce que comme c'est des Arabes, c'est très important de noter cela, le Coran a été révélé en langue arabe, que les gens de l'époque comprenaient, et c'était des gens aguerris, comprenaient, ils étaient très très forts en langue arabe. Et c'était des maîtres de la langue arabe. Alors, chaque prophète devrait ramener un défi, qui va être un défi, aux choses qui sont reconnues par une communauté ou une société. C'est-à-dire que si vous avez une société où la médecine est très avancée, Allah ne va pas envoyer un prophète qui va les défier dans un autre domaine. Il va les défier dans le domaine où eux, ils prétendent être très forts. D'accord? Donc eux, à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens du verbe. C'était des gens qui étaient très très forts en langue arabe. Ils écrivaient des poésies, mais si, inchallah, un jour, vous maîtrisez la langue arabe, vous allez voir la poésie d'avant l'islam, c'est quelque chose de très 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 fort. Très fort. Mais une fois qu'ils ont commencé à entendre le Coran, le Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, réciter le Coran, c'est le choc. C'est le choc. Récité par quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, il ne sait ni lire ni écrire, et ils n'arrivent pas à comprendre. C'est quoi ça? C'est de la poésie, mais ce n'est pas de la poésie. C'est du rime, ils n'arrivent pas. Mais c'était très puissant. Très, 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 très puissant. Donc, il leur a lancé un défi trop fort et les a battus sur leur terrain dont eux prétendent qu'ils sont forts. Donc, non.
Qui
Ah, contre le c'est-à-dire les mécréants. Contre le Coran, il est venu, comme tous les prophètes. C'est-à-dire, un prophète doit ramener un défi que personne ne peut s'opposer, ou bien ramener comme lui. Donc Sidna Moussa, je vous donne, on parlera en détail hein, quand on traitera des prophètes. Sidna Moussa, il prend un bâton, off, la mer se divise en deux. D'accord? Tu peux passer, t'as la mer par là, tu peux passer. Donc, est-ce que quelqu'un peut faire cela? Ben, personne ne peut le faire, la preuve, c'est un prophète. Vous m'avez compris. Donc, ça s'appelle un miracle. C'est-à-dire, un prophète doit ramener un miracle, ce qui est une preuve qu'il y a des choses surnaturelles que personne ne peut faire. Si quelqu'un peut faire, donc c'est pas un prophète. Donc c'est des défis qu'il va ramener. Le plus grand, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de 1000 miracles. Wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar, minha kalamullah wa mu'jizul bashar. Il a plus de 1000 miracles, et le plus grand miracle, c'est le Coran. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons la croyance, même les kuffars comprenaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de problème au sein de la communauté musulmane qui discutait la croyance musulmane, puisque le prophète l'expliquait et les compagnons assimilaient et comprenaient qu'est-ce que c'est que la croyance musulmane, quels sont les attributs d'Allah azza wa jalla à travers les versets coraniques, à travers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit dans ses hadiths, et qu'est-ce que c'est que le monde de l'au-delà, etc. Je ne parle pas de la jurisprudence, ce n'est pas la vocation du corps aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que de la croyance. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, il faut comprendre que ce n'est pas tous les tribus arabes qui se sont convertis étaient sincères. Il y a plein qui se sont convertis, ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabes sont devenus puissants, ils ont la maîtrise de tout, c'est-à-dire ils sont devenus très puissants, ils dominent toute l'Arabie. Alors ils ont dit, bon, écoutez, bon, pour qu'on ne nous casse pas les têtes et les pieds, alors on va se convertir, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être, on dit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, allez la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Laissez-nous tranquille. Ne nous cassez pas trop les pieds. Donc, par peur, ou bien par intérêt, ils se sont convertis, plein de tribus. Ils ont dit, bon ben, quand ce prophète va mourir, ben, cette religion va partir, nous allons nous révolter, hop, on n'en parle plus. Parce que surtout ceux qui avaient le pouvoir, des rois, des patriarches, ça les gênait. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tribus se sont révoltées contre le premier calife. Ils ont trouvé un astuce en lui disant, écoute, l'aumône, nous on l'a donné au prophète. Le prophète est mort, nous on ne donne plus d'aumône. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on ne donne plus d'aumône. Or, l'aumône, on ne le donnait pas. Le prophète, on donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, le prophète avec des compagnons distribuait le donné aux pauvres, mais c'est pas le prophète, il est mort, il n'a rien laissé chez lui. Hein. Et il n'y avait rien du tout. Donc, ces gens-là se sont révoltés afin de mettre au chaos, donc, c'est-à-dire le nouveau noyau hein, qui vient de, c'est-à-dire, on va dire, le nouveau État islamique que le prophète a bâti à Médine. Mais si Sidna Abou Bakr Siddiq, et le prophète, entre guillemets, savait, connaissait les hypocrites qui étaient parmi les musulmans, et il y a plein de compagnons, ils ont dit à Rasulallah, puisque tu connais ces hypocrites-là, qui ne sont pas des vrais musulmans, il faut qu'on termine avec eux, il faut les exterminer. Le prophète a dit non, ne touchez à aucun d'eux, puisque déjà ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulallah, ils font la prière. Si vous commencez à les tuer, les autres tribus qui ne sont pas musulmans vont dire, regardez, Mohammed, il est en train de tuer ses compagnons. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Ils vont dire, regardez, ils sont en train de s'entretuer, et ils vont profiter de cette occasion, ces hypocrites-là, pour... Donc il a dit, laissez-les. Mais il a donné la liste de ces hypocrites. Quand on dit hypocrites, ce sont des gens qui n'étaient pas des vrais musulmans et se déclaraient musulmans. Il a donné à un compagnon qui s'appelle Hudhayfa de l'Yamani. Donc il connaissait la liste de ces hypocrites-là un par un. Subhanallah. Un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, grand compagnon du prophète, allait voir ce compagnon-là, il frappe à la porte la nuit, il dit, ya Hudhayfa, par Allah je te demande, dis-moi, mon nom ne figure pas parmi ces hypocrites-là. Subhanallah. Et le compagnon lui dit, ah Omar, si ton nom figure, mon nom serait avant toi. Toi, le grand Omar, grand pieux, toi, tu es... Tellement, c'est des gens qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Alors, sallallahu ala rasulullah. On dit sallallahu ala rasulullah, c'est-à-dire, il faut dire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faire salat ala rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation une fois dans la vie. C'est la prière. C'est-à-dire, on dit sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est nous qui... On n'a pas le droit de dire... Ya Allah, pardonne le prophète, Ya Allah, soit que les mauvais. Non, on dit sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et ça, c'est une récompense qui revient vers c'est nous qui avons les bonnes actions. Idem. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sayyidina Abu Bakr Siddiq prend les rênes, devient calife. Il leur déclare la guerre à ces gens-là qui parce qu'ils ont renié, c'était des musulmans, ils ont renié. Il a compris, le Sayyidina Abu Bakr Siddiq, que c'est des gens qui veulent mettre au chaos l'islam juste en profitant de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris le dessus, mais ces gens-là, ils sont restés. Ils envoyaient de temps en temps, on va dire, des kamikazes. Hein. C'est des kamikazes qu'ils envoyaient. D'ailleurs, après la mort de Abu Bakr Siddiq, ils envoyaient quelqu'un qui a tué le troisième calife, en pleine prière. Il l'a poignardé. Ils ont poignardé aussi le troisième et le quatrième calife. Donc, ils ont poignardé, ils ont tué Omar ibn Khattab, ils ont tué Uthman et Ali. Alors, on a quatre califes en islam. Alors, les quatre califes, le premier calife, c'est Abu Bakr. Deuxième calife, Omar ibn al-Khattab. Et le troisième, Uthman ibn Affan. Et le quatrième calife, c'est Ali ibn Abi Talib. Donc le premier calife, c'est Abu Bakr Siddiq, ensuite c'est Omar ibn al-Khattab, ensuite c'est Uthman ibn Affan, ensuite c'est Ali ibn Abi Talib. Je ne reviens pas comment les califes ont été, c'est les Sahaba, ils se regroupaient et donc ils désignaient un des califes, etc. Alors, le troisième, quatrième et cinquième, donc calife, ils ont été tous poignardés par ces parasites qui étaient au sein de la communauté musulmane. Ces gens-là, donc ils avaient des intérêts politiques au début, c'est pour mettre au chaos la communauté musulmane, mais au fur et à mesure que le temps passe, ils se disaient musulmans et ils prenaient des idées idéologiques, ils avaient une croyance. Donc on va avoir plus tard des sectes et des groupes égarés dont les origines étaient quand même ces tribus, pas tous, mais la plupart d'eux, qui étaient ancrés dans la société musulmane. D'accord. Et que un jour on en parlera, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Leur idéologie n'est pas partie, elle est restée, historiquement. Alors, donc, tout cela pour dire que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas de problème de discussion de la croyance musulmane entre les musulmans. À l'époque du Sidna Abu Bakr Siddiq, non plus. Donc on a des gens qui opposaient le pouvoir. À l'époque du Sidna Amr ibn Khattab, ça ne discutait pas. C'était quelqu'un de très juste, très fort. Il tenait les rênes. À l'époque des Sidna Uthman ibn Affan, ils ont commencé à perturber vraiment la société musulmane en sortant des idées, on va dire, pour mettre en cause la crédibilité de l'autorité de Sidna Uthman ibn Affan, en lui reprochant, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de le discréditer. Oh, tu es monté sur le même bar, troisième marche, le prophète était sur la deuxième. C'est-à-dire, on lui trouvait n'importe quoi. C'est des choses, mais l'essentiel, jusqu'à ce qu'il a été menacé. Ils l'ont menacé plusieurs fois. Et le Coran qu'il avait entre les mains, Moussa Fatman, on a le sang qui a été giclé quand ils l'ont frappé, il lisait le Coran. Il existe jusqu'à aujourd'hui, on a les taches du sang jusqu'à aujourd'hui sur ce Coran-là. Et ça, c'est parmi question de texte, quand on parle avec les autres religions, nous, on a entre les mains le texte original coranique qui a été écrit par les compagnons qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, comparant avec les autres religions, je suis désolé, qui ont été écrits 100 ans, 200 ans après. D'accord? C'est très important. Sidna Uthman ibn Ali ibn Abi Talib, la même chose. Donc vous avez les khawarij qui venaient et qui prend une chaise. Il y a une chaise ici. Donc, qui l'ont tué, et qu'il y avait des intérêts politiques. Ensuite, ces intérêts politiques se sont transformés à une idéologie et une croyance. C'est très important. Donc, pratiquement, la plupart des sectes musulmanes et groupes, parce que qui sont sortis de la société musulmane, qui vivent dans la société musulmane, la plupart, retenez bien cela, au départ, ils avaient des penchants politiques, mais après, ils ont imprégné des idées de croyances adaptées à eux, qui sont à l'opposé du sunnisme. Les sunnites, ce sont les quatre grandes écoles. D'accord ? C'est la majorité des musulmans, c'est ça. Et les groupes égarés et sectes, chacune a son nom, sauf il y a une secte qui s'appelle les Mu'tazilites. Donc tous les autres groupes et sectes qui sont sortis de la société musulmane, au départ, ils ont démarré par des intérêts politiques. Ensuite, ils ont adapté une idéologie, une croyance. Sauf les Mu'tazilites, c'est le contraire. Ils ont démarré un débarrage purement scientifique. Ensuite, ils se sont intéressés à la politique. D'accord ? Ils ont été au pouvoir. Alors, pendant toute cette période-là, à l'époque de Sidna Ali, il y a la question de croyance saine, pure, existait au sein de la communauté. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, j'ai dit, il a enseigné le tawhid pur. On a parlé de ça. Il a enseigné le tawhid, la croyance pure comme elle se doit. C'était indiscutable. À l'époque, Sidna Abou Bakr Siddiq, on ne discutait pas. Sidna Omar ibn Khattab, on ne discutait pas. Sidna Asma ibn Affan, on a commencé à avoir quelques idées des gens à gauche et à droite qui remettaient en cause quelques versets ou bien ils donnaient des mauvaises interprétations. À l'époque, Sidna Ali, ça a commencé. Après la mort de Sidna Ali, la période ensuite, Omeyyade, Abbaside, là, les sectes et les groupes sont sortis. Ils ont commencé à prendre de la force. On a plein de sectes et de groupes au sein de la communauté musulmane qui ont pris une croyance dérapée de la vraie croyance pure que le prophète a enseignée à ses compagnons. Tout cela, je vous dis, pour arriver à quelque chose, comment a été bâtie la science du tawhid. Parce que jusqu'à présent, on parle du tawhid, on parle de la croyance. Comment on est arrivé à avoir la science de la croyance? C'est très important. C'est-à-dire, on a parlé du fiqh que le prophète enseignait à ses compagnons, mais à un moment donné, on parle de la science du fiqh. D'accord? Et la science va prendre le nom de celui qui lui met des règles et des bases. C'est pour ça que vous voyez, on parle des Ash'arites, vu que celui qui a fait les règles et les bases de la croyance musulmane, ça, il s'appelle Abul Hassan al-Ash'ari, dont on va parler. Ce n'est pas lui qui a inventé la croyance, ni le tawhid, mais la science. C'est lui qui a mis des règles, celui qui a mis une méthodologie, celui qui a mis une façon de comprendre, une façon de défendre. C'est très important. Donc, après la mort de Sidna Ali ibn Abi Talib, on a commencé à avoir plusieurs sectes, par exemple les Kharijites, qui étaient des gens, on va dire à l'origine, il y avait des intérêts politiques, qui étaient contre Sidna Ali, contre Sidna Muawiya, et qui disaient qu'ils me faisaient la fitna, hein, c'est-à-dire ils faisaient la zizanie entre les compagnons, etc. Et vous avez les chiites, qui sont apparus un peu plus tard, soi-disant ils défendaient Sidna Ali, et la famille du prophète, mais c'est une secte. Et ils se sont divisés, hein, les chiites, il y a plusieurs groupes parmi eux. Ils ont des croyances, il y en a ceux qui ont des croyances qui ne sont pas, c'est des croyances dérapées, mais ils restent égarés sans pour autant les traiter de mécréants, mais il y en a ceux qui sont considérés comme mécréants. Ils sont complètement sortis de l'islam. Donc parmi ces sectes et ces groupes, il y en a ceux qui restent quand même des musulmans, mais ils ont des croyances dérapées, égarées. D'accord. Mais on ne peut pas dire, non, c'est des gens qui sortent de l'islam. Par contre, vous avez des sectes et des groupes qui sortent complètement de l'islam, vu ce qu'ils disent qui est contradictoire totalement avec les textes de base du Coran et de la Sunna authentique. Donc chaque secte, chaque groupe se discute en elle-même. Alors, parmi ces sectes-là et ces groupes-là, on va s'intéresser à une secte qui s'appelle les Mu'tazilites. Alors, vous avez Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a un de ses disciples qui s'appelle Al-Hassan al-Basri, c'est un grand tabi'in. Donc vous avez les compagnons du prophète, ceux qui ont vécu avec le prophète, qu'est-ce que ça veut dire un compagnon? La définition d'un compagnon, c'est un musulman qui a vécu à l'époque du prophète, à condition qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mort musulman. Il a vécu à l'époque du prophète, il a vu le prophète, ensuite, hop, il est rentré avec le groupe qui sont contre les musulmans, il est mort. Non, s'il est mort non musulman, c'est pas un compagnon. Donc un compagnon, c'est quelqu'un qui a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mort musulman, sauf pour les aveugles. Alors les aveugles qui étaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont parlé, ils ont assisté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais Ils n'ont pas vu, c'est des aveugles. Ça, c'est des compagnons aussi. On ne va pas leur dire pourquoi vous n'avez pas vu, pourquoi ils n'ont pas vu. Non. Donc, c'est des aveugles. Ça y est, sallallahu alayhi wa sallam. Even. Donc, les compagnons, ils ont leurs élèves, on les appelle les tabi'in. Tabi'in. D'accord. Donc les compagnons du prophète, pour comprendre que l'islam n'est pas venu comme ça, n'est pas arrivé comme ça, c'est des chaînes de transmission. Chacun transmet à l'autre. C'est pour ça que ça nous fait rire aujourd'hui quand on voit des gens qui nous ramènent des bêtises, pas possible, des fatwas, pas d'où ça sort. Il faut voir les chaînes de transmission, c'est très important. Quand on a des enseignants, des gens qui font les fatwas, qui enseignent, il faut qu'ils nous ramènent leurs chaînes de transmission, d'où ça vient ceci ou cela. Surtout s'ils sortent des cadres des catécoles sunnites dont on a parlé. C'est très important. Les compagnons, ils ont appris à leurs élèves, qui sont les tabi'in. Les tabi'in, ils ont appris à leurs élèves, qui sont atba' tabi'in, et ainsi de suite. Et la science, elle se transmet d'une génération en génération. Bien sûr, il y a des ouvrages, il y a des livres, etc. Mais la transmission, elle est très importante. S'il n'y a pas la transmission d'homme à homme, c'est du vent. Très important. Les livres sont importants, c'est très intéressant, pour enrichir le savoir et les connaissances. Mais il faut toujours être cadré par un cheikh qui nous oriente et qui nous montre le chemin. Sinon, on risque d'aller à gauche, à droite et de dire n'importe quoi. Même si des fois on lit un ouvrage, on peut avoir c'est-à-dire notre propre compréhension, une autre lecture qui peut être fausse. Alors là, les traductions, je vous dis par les dégâts qu'il y a dans les traductions du Coran, etc. Donc, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il avait un grand disciple, un grand tabi'in, s'appelle Al-Hassan Al-Basri. Très célèbre, très connu. Al-Hassan Al-Basri. Al-Hassan Al-Basri, c'est un grand tabi'in. Donc il a pris de Sidna Ali ibn Abi Talib. Parmi ses élèves, ce Al-Hassan Al-Basri, il enseignait aux gens l'islam, la religion, croyance, jurisprudence, etc. Parmi ses élèves, il a fait un élève qui s'appelle Wasil ibn Atta. C'est pas la peine de l'écrire. Wasil ibn Atta, bon. Alors, ce Wasil ibn Atta, ça lui plaît pas la façon dont enseignait la croyance, surtout l'imam Hassan al-Basri. Parce que la croyance, à l'origine, notre croyance à nous, elle vient d'où? Elle vient du Coran et de la Sunna authentique, on est bien d'accord. C'est-à-dire, tout ce qui concerne le monde de l'au-delà, c'est pas la raison qui va nous le chercher. Sinon, Allah Azza wa Jalla n'aurait jamais envoyé des prophètes qui nous ont parlé du monde de l'au-delà. Si quelqu'un, par exemple, frappe maintenant à la porte, tac, 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 personne ne peut le dire qui est-ce qui est derrière la porte. C'est quelque chose qui nous échappe. Alors, que dire de le monde de l'au-delà? Juste quelqu'un qui est derrière la porte, on ne sait pas. Alors, le monde de l'au-delà, c'est encore pire. Donc, il nous faut des messagers qui vont nous apprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce monde-là, etc. Wasil ibn Atta n'était pas d'accord avec cette méthode. Il a dit non. Vous ne donnez pas d'importance à la raison. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Donc, c'était un élève de Hassan al-Basri. Il se retirait. Il a créé son petit groupe. Et l'imam Hassan al-Basri, il a dit, il a parlé en arabe, il a dit, « I'tazalana wasil ». C'est-à-dire, il s'est détaché de nous, il s'est mis à part. « I'tazala ». C'est-à-dire, il s'est mis à part. Et d'où vient le mot « mu'tazila ». Donc, son groupe, ils ont pris ce nom-là de « mu'tazila ». Enfin, comme ça, on l'écrit. Al-Mu'tazila, les Mu'tazilites. Ou bien on va écrire en français les Mu'tazilites. Donc c'est un groupe, c'est une secte qui a été fondée par un certain Wasil ibn Atta, dont la base, la règle chez eux, primordiale, c'est de donner la priorité à la raison avant le texte. C'est-à-dire que le texte coranique ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, doit s'adapter à la raison de ce que pense l'homme. Ça, c'est grave. Parce que la raison, elle est limitée. La raison, elle ne peut... bien sûr, elle est importante. Mais c'est la raison qui doit suivre le texte et non pas le contraire. Donc, dans les écoles sunnites, chez les catécoles, donc c'est la raison qui doit suivre le texte et non pas le contraire. Et nous, dans nos cours... On avance, il y a de la place ici, Ourte Karima. Venez. On avance l'argument par le texte et on l'argumente La raison, elle doit soutenir ce texte-là. C'est pour ça que quand on va parler de la croyance, dans les cours qui vont venir, quand on va parler de croyance, il faudrait non seulement qu'on argumente par le texte, c'est-à-dire par le verset et par la sunna, mais aussi par la raison. C'est très important. L'islam n'est pas venu pour contredire la raison. Mais attention, la raison, si on la laisse sans des garde-fous, elle peut dire n'importe quoi. Wow, la pensée de l'homme aujourd'hui, je suis désolé, point de vue médecine, machin, etc. Bon, il y a des belles choses, mais aussi il y a des mauvaises choses. On en voit par exemple, point de vue économique, les crises économiques ne sont pas venues de n'importe où. Hein, c'est la pensée humaine qui a produit cela. Point de vue philosophique aussi, la psychologie aussi. Donc, on est des fois dans des impasses. Bien d'accord. Alors, les Mu'tazilites, les sunnites, ce sont les quatre écoles, ce sont la majorité des musulmans. Hein, les sunnites, on les appelle les sunnites, parce qu'ils suivent la sunna du professeur. Alors, ils ont gardé leur façon d'apprendre la croyance et de la défendre. À savoir, apprentissage directement du texte, et quand il s'agit de débat, on répond par le texte. C'est-à-dire, utiliser la raison et la polémique par la raison, ou l'analyse par la raison, était très limité chez les sunnites. Je parle au début. Mais il y a un problème qui s'est posé. C'est que cette secte et ce groupe-là, étant des gens qui ont beaucoup perfectionné la raison, ils ont développé leur école, ils ont commencé quand même à avoir de l'ampleur dans la société musulmane. Ils ont commencé à avoir de l'ampleur. Et leur ampleur, elle est arrivée au degré que beaucoup ont adapté leurs croyances, voire le calife a adapté leurs croyances. Les juges sont devenus, le calife, il avait des juges qui leur appartiennent, la police, etc. Donc la structure de l'État islamique est en danger. Puisque le calife lui-même, il est mu'tazilite, il appartient à une secte. Puisque les juges sont devenus cela. Alors les savants musulmans sunnites, ils ont un problème. Donc on voit qu'il quand même, il y a une secte qui a pris le pouvoir. Et que non seulement ça, cette secte-là, elle a essayé, rappelez-vous quand on a parlé la semaine dernière, des quatre grands fondateurs des écoles juridiques, parmi eux le dernier c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'était à son époque, où le calife était Mu'tasim, était Mu'tazilite, ils ont essayé de lui imposer cette croyance. Il est resté 2 ans et demi en prison. Ils l'ont donné du coup de fouet. Il faut que tu crois ça. Il a dit non. Ça, c'est. Oui.
Et moi, vous dites que les sunnites, en fait, ils sont, de manière générale, majoritaires, mais le pouvoir est contrôlé par les.
Mu'tazilites. Oui.
Non, c'est une affirmation que je voulais
dire. Oui, absolument. Quand on dit ils sont majoritaires, parce que le peuple, quand on dit majorité des musulmans, c'est le peuple. C'est la majorité des savants. Mais le calife et les Mu'tazilites. Mais les quelques juges, vous savez, ceux qui détiennent, c'est-à-dire les reines, ils ne sont pas sunnites. Alors, il a commencé à apparaître quelques savants sunnites qui ont dit, écoutez, il y a un problème. Ces gens-là, on ne peut les battre si on reste dans notre méthodologie de voir les choses, à savoir de parler aux gens qu'avec le texte et le verset. Le verset, il y a la croyance, c'est quoi? Tel verset, tel. Si on n'utilise pas la raison, puisque la raison, elle ne peut être contre le texte, la bonne raison, elle ne peut être contre le texte, donc on va apporter la croyance sunnite, mais on va l'argumenter avec la raison. Donc il y avait 3 grands savants sunnites qui ont commencé à avoir cette approche. Donc ces 3 grands savants, je vais écrire leur nom. Donc c'est des savants sunnites qui ont commencé à argumenter à travers la raison, bien sûr avec le texte et la raison. Donc cette chose, de nouveau, dans la méthodologie sunnite. Ils ont dit, on a constaté, dans le Coran lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala nous a quand même passé des messages, nous a appris à utiliser la raison dans la discussion sur les questions de croyance. Sidna Ibrahim al-Khalil, dans le Coran, il débattait avec, c'était un prophète, il débattait avec les mécréants de son époque. Donc un mécréant, quelqu'un qui ne croit pas au texte, tu ne peux pas lui ramener les versets puisqu'il ne croit pas. Donc il faut que tu parles avec lui avec la raison. Donc il a commencé à une fois, il y avait plein de statues, il a détruit toutes les statues, il a laissé une seule statue. Hop. Et la pioche, voilà, c'est la pioche. La pioche, il l'a mis sur la plus grande statue, comme ça. Et quand, c'est-à-dire les gens du village sont revenus, machin, ils ont dit, oh, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a détruit toutes nos statues? Ils ont dit, on a entendu parler un jeune qui s'appelle Ibrahim, il est critiqué. Ramenez-le. Ils l'ont ramené. C'est toi qui as fait ça? Ah non, c'est pas moi, c'est le plus grand. Regardez, c'est lui qui a la pioche, c'est lui qui a la pioche. Kabir Oumahada. Donc c'est Ibrahim Khalil. Il utilisait la discussion et la raison avec eux afin de les ramener pour raisonner, puisque c'est des gens qui ne raisonnent plus. Puisqu'ils adorent des statues. Il essaie de les ramener vers la raison. Il a dit, écoutez, non, moi je pense que c'est plus propre, puisque c'est lui qui a la pioche. Il leur a dit, donc posez-lui la question, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Donc le Coran Karim nous apprend que. C'est-à-dire, ils ont commencé à quand même à perturber, à se poser des questions. Ensuite, ils lui ont dit. C'est-à-dire, mais tu sais que ceux-là, ces statues-là ne parlent pas. C'est Ibrahim Khalil, mais vous êtes mieux qu'eux, puisque vous parlez, vous réfléchissez, vous bougez, etc. Hop, vous poussez, donc vous êtes mieux qu'eux, comment vous allez adorer quelque chose que vous êtes plus fort, c'est vous qui l'avez construit, etc. Donc, cette façon de discuter avec la raison, etc., ces grands savants ont dit, puisqu'elle existe le Coran al-Karim, donc Allah Azza wa Jalla nous a permis d'utiliser la raison pour défendre la vraie croyance. D'accord. Donc, plusieurs versets où on a des discussions entre les prophètes avec les gens de leur époque, le Coran al-Karim nous apprend que cela n'est pas interdit, voire est recommandé. Donc ces grands savants qui sont l'imam Ibn Kulab, l'imam Al-Khalansi, l'imam Al-Muhasibi. Alors, ces grands savants, c'était les précurseurs, c'est les premiers qui ont commencé quand même à changer un petit peu la méthodologie d'apprentissage de la croyance et de la façon de la défendre. Mais ils ne sont pas allés plus loin au degré de mettre des règles et bâtir une science de la croyance sunnite. On parle bien de science, parce que la croyance a existé depuis Sayyidina Adam et tous les prophètes, Sayyidina Rasulallah, il a, rappelez-vous, j'ai dit, a pris cette croyance. Mais en tant que science, qui a ses règles et qui a sa méthodologie, on ne la verra qu'avec un grand imam dont on va parler, ou bien deux grands imams dont on va parler. Alors, vous avez l'imam Ibn Kulab, l'imam Al-Qalansi, l'imam Al-Muhasibi. D'accord. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, la secte Mu'tazilite, c'était pas des gens bêtes. C'était des gens qui ils avaient des grands débats avec les philosophes grecs et romains. Ils gagnaient ces débats-là. Ils étaient très très forts, point de vue analyse par la raison. Ils défendaient la croyance musulmane, mais ils avaient des dérapages. Ils avaient des discussions avec eux. À un moment donné, il y avait un grand, le maître de cette secte-là, qui s'appelle Al-Jubay. Alors ce Jubay, c'était le grand maître de cette secte, hein, cette pensée. Entre guillemets, ce qui est extraordinaire, c'est cette secte-là, elle a disparu au 4e siècle à peu près. Hein, elle réapparut, ça fait 20-30 ans. Ça, en Jordanie et en Asie, en Indonésie. Donc ils sont réapparus avec une idée nouvelle aujourd'hui, les Mu'tazilites, ça paraît bizarre, mais bon. Soi-disant, puisque le monde musulman c'est un monde sous-développé, et comme nous devons nous développer, et si on ne donne pas la priorité à la raison, nous restons se développer. Donc, pour nous développer, il faut qu'on soit Mu'tazilite afin de donner quand même une dynamique à la raison qui va nous pousser à être dynamique en économie, dans la technologie, etc. Ce qu'ils ignorent, c'est que nous, les musulmans, on n'est pas sous-développés dans la croyance. C'est très important. On est développé dans la croyance. Les autres qui sont sous-développés dans la croyance. On est sous-développé dans le point de vue économique, technologique, communication, tout ce que vous voulez. Mais si on a quelque chose dont on est fier, c'est bien la croyance. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Alors, au moment où le grand cheikh Imam Jubai, qui était Mu'tazilite, il avait Alors, sans gendre, on va dire sans gendre, c'est-à-dire le... Il était marié à une femme qui avait déjà un fils, son beau-fils. Il s'appelle l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Ça, par contre, il faut le noter. Abul Hassan al-Ash'ari. Alors, Abul Hassan al-Ash'ari, il était élève de ce Jubba'i. Donc, il était mu'tazilite. Alors, imaginez la société musulmane, vous avez des savants musulmans, vous avez les Mu'tazilites qui ont un pouvoir, et qui sont forts, d'accord? Et vous avez, bon, à leur époque, les Mu'tazilites, ils étaient plus califes, hein, mais quand même, ils avaient un grand pouvoir dans la société. Et ils ont, on va dire, fait une fitna, vraiment. Lancer des choubas, c'est-à-dire fitna, c'est-à-dire dans la... Fitna, c'est...
Division.
La division, voilà, suspicion, division, au sein du commun des gens. Parce que les gens, normaux, tu ramènes à l'argument, d'accord. Donc ils ont, la croyance, elle a commencé à toucher le commun des gens, ils ont perturbé la foi des gens. Donc, ce imam, Abul Hassan al-Ash'ari, il était mu'tazilite. Puisque le mari de sa maman, c'est le cheikh des mu'tazilites, donc il est resté dans cette école 40 ans. 40 ans, 40 années, il était mu'tazilite. Il est devenu même un des grands maîtres à penser de cette secte. Mais comme c'était quelqu'un de sincère, qui cherchait toujours la vérité, il a constaté qu'il y a quand même des contradictions dans les raisonnements de cette secte. Il connaissait les écoles sunnites, mais pour eux, les mu'tazilites, ils se disaient que c'est eux qui sont dans la vérité. Ils ne se croient pas que c'est une secte égarée. Rappelez-vous, hein, les sectes, vous savez, il n'y a pas une secte qui te dit « moi je suis une secte égarée ». Non, les sectes, ils croient qu'il est bien dans le droit chemin. Ils défendent, à fond son cheminement. Il ne le sait pas. Mais s'il est sincère, et qu'il faut qu'il jette un coup d'œil chez ses adversaires, voire même chez ses ennemis, qu'est-ce qu'il donne? Peut-être qu'il est dans l'erreur. Et lui... Il faisait ça, il écoutait les sunnites, ce qu'ils disaient. Il révisait tout le temps le Coran al-Karim pour voir s'il y a s'ils sont en contradiction avec leur approche. Alors, ces mu'tazilites, quand ils ont bâti leur école, ils ont fait des règles. Parmi les règles, je ne vais pas rentrer dans le détail, parmi les règles, parce que c'est un peu compliqué, il y a la règle de ce qu'on appelle, voilà, salah wal aslah, qu'on peut traduire, le mieux et le meilleur. Ou bien le bien est le meilleur. C'est-à-dire dans leur logique, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un créateur qui ne veut que du bien. Il ne veut pas du mal à ces créatures. Donc, non seulement il nous veut du bien, mais voire il nous veut du meilleur. Dans leur logique, c'est comme ça. Donc Allah azza wa jalla nous veut non seulement le bien, mais ce qui est meilleur. Salah wa aslah. Alors, Imam Abul Hassan al-Sha'ari, il a eu un débat avec le mari de sa maman, qui n'est pas son père. Le grand cheikh du Mu'tazilite. Il a dit, attends. Il a dit, il y a un problème dans votre truc là. Après 40 ans, il était 40 ans avec eux, il les défendait. Il est resté 15 jours à réfléchir sur la question. Il a dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prouve que la raison a ses limites du point de vue de la croyance. C'est la raison qui devrait suivre le texte, et non pas le texte qui devait suivre la raison. Et par cela, il a fait un grand débat avec son cheikh, son maître des Mu'tazilites. Il lui a dit, tu as trois personnes. Un qui est musulman, adulte, un qui est mécréant, et un enfant musulman. Alors, il lui a dit, le mécréant, il meurt, il va où? Le Mu'tazilite lui a dit, il va en enfer. D'accord. Il lui a dit, le croyant musulman adulte, il meurt, il va où? Il lui a dit, au paradis. D'accord. Il lui a dit, et le petit enfant, rappelez-vous, on a dit les mu'tazilites, ce sont des gens qui utilisent la raison avant le texte. Nous, on a le paradis et l'enfer. On n'a pas une troisième chose. Eux, ils ont inventé une troisième chose, à savoir une terre qui est ni paradis, ni enfer. Manzila ben manzilatin. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'intermédiaire. Qui est-ce qui va? Puisqu'il utilise la raison. 1 plus 1 divisé par 2. Donc, qui est-ce qui va dans cette terre qui est ni paradis ni enfer? les fous, les enfants qui meurent avant l'âge adulte, ceux qui n'ont jamais entendu parler de la croyance. Donc tous on les met là, hop, on est tranquille, ils sont ni dans l'enfer ni pas. Donc ils utilisent la raison. Donc il lui a dit, l'adulte musulman, il va au paradis, l'adulte mécréant, il va en enfer, et l'enfant qui meurt avant l'âge adulte, il va dans cette station. Pour Abul Hassan al-Sha'ari, c'est ce qu'il cherchait. Parce qu'il savait, il connaissait la réponse. Il lui a dit, écoute, pourquoi, puisque vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala veut que du bien, voire le plus grand bien pour ses créatures, le meilleur, voire le meilleur, pourquoi il a mis l'enfant dans la station qui est ni paradis ni enfer? Pourquoi il ne l'a pas laissé devenir plus grand pour qu'il aille au paradis? C'est meilleur pour lui. Il lui a dit non. C'est meilleur pour lui qu'il soit dans cette station, puisque Allah sait s'il va devenir grand, il devait devenir mécréant. Donc au lieu qu'il aille en enfer, donc il sera, c'est meilleur pour lui qu'il reste dans cette station. Abou al-Hassan al-Sha'ari lui a dit, alors pourquoi le mécréant, il l'a laissé devenir adulte et il est parti en enfer? Il l'a piégé. Vous avez compris? Donc il l'a piégé, il a dit, l'autre qui est parti en enfer, c'est pas meilleur pour lui. Il aurait dû le faire mourir jeune ou le transformer même en croyant. Donc il lui a montré que la raison, si on se base que sur la raison pour des analyses ou bien sur la croyance, nous allons tomber sur des impasses. À ce moment-là, il est monté sur le mimbar, c'était à Bagdad. Il a enlevé son kamis, il a dit, je me débarrasse du mu'tazilisme, comme je jette mon kamis, à partir de ce jour-là, je suis sunnite. Donc il est revenu à l'école sunnite, et il a commencé à développer ce que les trois grands savants ont commencé à faire, à savoir Ibn Kulab, Qalansi, Al-Muhasibi. Il a dit, c'est pas possible que la raison ne soit pas au service du texte coranique et du hadith. Il a commencé à réfléchir, à mettre des règles pour bâtir une science de tawhid sunnite, c'est-à-dire une méthodologie, comment nous allons comprendre le tawhid du Coran et de la sunna, et comment nous allons le défendre. D'où l'école des tawhid sunnites a pris son nom, les Ash'arites. Est-ce que vous avez compris? Comme Imam Malik, ils ont pris, on dit les Malikites, c'est des sunnites. Mais en même temps, il faut souligner, lui, il était du côté de Bagdad. On a un autre grand savant du côté de l'Asie centrale, Samarkand, etc., qui s'appelle Abou Mansour al-Maturidi. Donc, vous avez les dates hein, dans l'article. Hein, il est même Abou al-Hassan al-Sha'ari qui est mort en 324, l'équivalent de 935. Alors, alors, la date de l'imam Abou Mansour, 333 à peu près, oui. Alors, vous avez un autre grand savant sunnite qui s'appelle Abou Mansour. Abou Mansour al-Maturidi. Alors, ils étaient à la même période, mais ils ne se sont pas rencontrés. Ce grand imam, Abou Mansour al-Maturidi, il était du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui du côté de Bilad Mawar al-Anas, c'est-à-dire tout ce qui est côté la Russie musulmane, l'Asie centrale, Bukhara, Samarkand, etc. Alors ce grand savant, il n'était pas mu'tazilite par contre. Il était à l'origine sunnite. Il a eu la même réflexion que l'imam Abou al-Hassan al-Ash'ari. Il a dit, il est temps que la raison soit au service de notre croyance, de notre texte. Il faut l'utiliser tout en donnant la priorité au texte, mais que la raison, on va créer une science qui va défendre notre croyance et qui va nous faciliter l'apprentissage de la croyance. Il a fait des règles, il a fait des bases, etc. Les deux, sans être rencontrés, ils sont arrivés au même résultat, ils sont considérés les deux fondateurs des grandes écoles sunnites. Ils ont quelques toutes petites divergences, bien sûr, du point de vue terminologique, c'est-à-dire la définition d'un terme, dans la définition, mais très 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 limitée. Mais vu que tous les deux, ils ont démarré sur les mêmes principes du Coran et de la Sunna, du point de vue croyance, ils sont arrivés au même résultat. Donc les deux fondateurs de la science, c'est pas les fondateurs de la croyance, les fondateurs de la science de la croyance, les fondateurs de la science du tawhid, c'est l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi. Retenez bien cela. Alors, ces deux grands imams, la première des choses, vous imaginez, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, la première des choses qu'il va avoir, c'est des grands débats avec ses anciens amis, parce que lui, il était mu'tazilite. 40 ans mu'tazilite. Donc, il sort d'eux, donc les premiers adversaires, ce sont eux. Ah, ils vont pas le rater. Toi, tu es devenu sunnite, attends, tu vas voir. Donc, des grands débats, acharnés. Grands débats. Mais c'était un grand imam, puisqu'il il a pu, enfin, tous les savants sunnites de l'époque se sont rejoints à lui. Tous. Ils ont adopté sa méthodologie. Donc à partir de cette date, toutes les quatre écoles, parce que les quatre écoles, les fondateurs, ils ont existé avant lui, mais tous les savants qui appartenaient aux quatre écoles juridiques, donc trois grandes écoles vont adapter la méthodologie de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et une école va adapter celle de Abu Mansour al-Maturidi. Rappelez-vous, on a dit les écoles, il y en a quatre, d'accord ? Quatre écoles juridiques. Donc on a les Hanafites, on a les Malikites, on a les Shafiites, et on a les Hanbalites. Ça, ce sont quatre grandes écoles de jurisprudence qui, dont les fondateurs ont existé avant l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Alors, vous avez ces trois écoles-là, Malikites, Shafi'ites et la majorité des Hanbalites vont adopter la méthodologie Ash'arite. Donc tous leurs disciples, ceux qui appartiennent à ces écoles-là, ce sont des Ash'arites, vont adopter la croyance Ash'arite et la méthodologie Ash'arite. L'école Hanafite, elle va adopter, ici c'est Ash'arite, et l'école Hanafite, Maturidite. D'accord. Donc l'école Hanafite, ce sont des Maturidites, et l'école Shafi'ite, Malikite, Hanbalite, ce sont des Ash'arites. L'école Hanbalite dans sa totalité, parce qu'à un moment donné, chez les Hanbalites, on a eu une petite frange qui a dérapé quand même. Tout le monde a compris ? C'est très important ça. C'est-à-dire adapter une méthodologie d'apprentissage de la science du Tawhid. Comment on va l'apprendre ? Parce que tu as le Coran entre les mains. Comment tu vas, je te donne le Coran, va sors-moi tous les attributs d'Allah. C'était difficile. Donc ils étaient forcés, ces gens-là, ils étaient forcés à l'époque où il y avait beaucoup de sectes et que la philosophie grecque aussi nous attaquait, de ne pas rester les bras croisés, de s'armer afin de préserver cette croyance. Rappelez-vous, dans le cours que j'ai fait la dernière fois, je vous ai dit, quand est-ce que les savants sont obligés d'inventer une science et de lui mettre des règles, quand ils voient que cette science-là qui existait, elle est en danger, donc on doit lui faire des règles. J'ai donné l'exemple de la lecture du Coran, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait, il apprenait à ses compagnons directement, verbalement, la lecture de Hafs, la lecture de Warsh, bien que ces lectures-là, donc elles ont existé à l'époque du prophète. Mais à un moment donné, il y a des savants qui ont mis des règles à ces lectures-là, donc elles ont pris le nom de celui qui leur a mis des règles afin de les préserver. Bien que la lecture elle-même, elle a existé avant eux, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la croyance, elle a existé, bien sûr, le prophète qui nous a appris la croyance, mais lui faire des règles, le faciliter dans son apprentissage, dans sa méthodologie, comment on va l'apprendre, comment on va la défendre, ce sont des grands savants qui lui font ces règles-là. Donc elle porte le nom de savant qui lui fait des règles. Est-ce que tout le monde a compris cela ? Est-ce que vous allez ouvrir, je vous dis ça parce que ne vous étonnez pas, vous allez voir des livres qui se voient à gauche à droite, les Ash'arites c'est une secte égarée. Donc ça, vous allez trouver ça. Hein. Mais bon, si les Ash'arites sont des sectes égarées, donc vous avez 98% des savants de la au moins qui sont égarés. Donc il faut être sérieux quand même. Oui, mais des fois aussi, des fois il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire tu peux dire que tu es telle chose, mais c'est pas pour autant que tu l'es. C'est vrai ou non ? Vous avez des gens aujourd'hui qui disent je suis sunnite. Mais quand on voit sa croyance, je dis, il est out, des années de lumière du sunnisme, ça. Alors là, faut être sérieux. C'est-à-dire, sunnite, que Allah Azza wa Jalla il est assis, ça, je. Ou il a une main, il a un pied, il dort, il se lève. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas croyance musulmane, t'es maman. Faut être sérieux, quand même. Paye. Donc, ces grands imams, l'imam Abu Hassan Shah ibn Abu Mansour Maturidi, bon, majoritairement, vous voyez, les trois écoles, c'est des Ash'arites. Donc, majoritairement, c'est-à-dire les sunnites, c'est des Ash'arites. Pour ça, on parle des Ash'arites beaucoup plus que Maturidites. L'imam Abu Hassan Ash'ari, il a compris une chose, que vu la situation du monde musulman à son époque, il faut quand même enseigner cette science de Tawhid afin de préserver quand même la croyance pure sunnite. Donc il a formé toute une génération de savants. Des grands savants, il a formé toute une génération, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas à gagner, c'est-à-dire il a écrit beaucoup d'ouvrages, plus de 500 livres. Plus de 500 livres, malheureusement, l'histoire ne nous a pas épargné, hein, les guerres, etc. Beaucoup ont été perdus pratiquement, il reste 2-3 livres. Imam Abou, par contre, Abou Mansour Maturidi, on trouve ses ouvrages. Il a un grand tafsir du Coran, 10 tomes. Donc ils ont formé une génération. Dans l'article que vous avez entre les mains, on a cité quelques grandes sommités connues, qui sont des savants ash'arites, à la fin, hein, vous avez tous nos grands imams, en faisant partie, Al-Baqillani, Isfaraini, les mêmes des deux sanctuaires, Al-Juwayni, Abu Hamad Al-Ghazali, Al-Fakhr al-Razi, Al-Bayhaqi, Al-Amidi, Al-Shahrastani, Al-Baghdadi, Ibn Abd al-Salam, Ibn Daqiq al-Aid, Ibn Sayyid al-Nas, Al-Balqini, Al-Iraqi, Al-Nawawi, Al-Rifa'i, Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Suyuti, Ibn Maghreb al-Tartushi, Al-Maziri, Al-Baji, Ibn Rushd, Ibn al-Arabi, Al-Qadhi Iyadh, Al-Qurtubi, Al-Qarafi, Al-Shatibi, et des centaines de milliers d'autres. Donc, c'est-à-dire 99% des savants de la Ummah appartient à ces deux écoles sunnites de croyance. C'est très important. Donc nous, dans tout cela, pour dire que ce que nous allons apprendre dans nos cours, c'est ce que l'imam Abu Hassan Ash'ari a fait direct. Bien sûr, lui, il a fait les bases et les règles. Ensuite, il y a beaucoup de savants qui sont venus après lui. Bien sûr, ils rajoutent et ils répondent, ils ne sont pas d'accord avec le fondateur sur chaque point. Vous savez, les savants musulmans, ce n'est pas des gens qui ont des œillettes comme ça, carrés. Non. Ils discutent entre eux. Ils discutent entre eux. Et quand ils concernent la charia, ils se sont pitié. C'est-à-dire, quand ils voient la vérité sur quelque chose et qu'il a un argument, il le dit. D'accord? Donc, ils répondent entre eux, parce que l'intérêt, c'est d'arriver à quelque chose qui défend vraiment l'islam, qui donne son vrai sens pur, sain, comme elle a été révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très important à le connaître. C'est très important, cette grande introduction, pour savoir qui sont nos références. Ce n'est pas n'importe quel livre que vous allez trouver dans la bibliothèque qui traite de la croyance musulmane, c'est un livre qui est propre, qui n'a pas de dérapage à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. D'accord? Attention, il y a des références qui sont connues à travers l'histoire, et il y a des grands savants spécialistes de la croyance aujourd'hui, et il y a des grands savants qui sont connus il y a fait un siècle, deux siècles, trois siècles, etc. Donc, quand on lit un livre de jurisprudence ou bien de croyance musulmane, il faut savoir dans quel cadre il se situe celui qui a ce livre-là. Est-ce qu'il se situe, point de vue juridique et croyance, dans le cadre des quatre écoles ou en dehors? S'il se situe dans le cadre des quatre écoles, il n'y a pas de problème. Si c'est dehors, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'il prétend être sunnite qu'il est sunnite. Non. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. À notre niveau, je sais que c'est difficile à votre niveau. Je sais, quand on commence comme ça. Mais, au fur et à mesure, Inch'Allah, en apprenant, l'islam, il a une cohérence dans sa croyance et dans sa jurisprudence. Donc la totalité des musulmans, des savants musulmans, ont gardé cette architecture, cette cohérence. Les failles, il n'y en a pas. On peut trouver une faille chez un savant, chez deux, chez trois, mais pas dans la pensée musulmane. Parce que c'est le produit de toute une umma. D'accord? peut trouver des failles ou des erreurs chez un savant, c'est normal, c'est un être humain. Mais pas dans ce que l'ensemble des savants ont produit et nous ont donné. Donc là, notre étude sera consacrée à la croyance sunnite. Donc il y aura une méthodologie de ce que nous allons parler. On a dit que la science du fiqh, est-ce que le fiqh il a existé à l'époque du prophète? Le fiqh, c'est la jurisprudence. Est-ce qu'elle a existé à l'époque du prophète? Bien sûr, elle a existé. Mais en tant que science qui a ses règles, etc., ce sont des grands savants qui sont venus après qui lui ont fait des règles. Les lectures du Coran, est-ce qu'elles ont existé à l'époque du prophète? Bien sûr. Mais avec une science qui a ses règles, les méthodologies, etc., ce sont des savants qui sont venus. Est-ce que le tawhid, il a... Bien sûr, le prophète, il est venu surtout pour le tawhid. Mais en tant que science qui a ses règles, méthodologies, ce sont des grands savants qui sont venus plus tard. La grammaire aussi. Les sahaba, c'est des gens, vous savez, ils n'allaient pas à l'école pour apprendre varaba, fi'alma. Non, c'est leur parler. Mais à un moment donné, les grands compagnons, ils ont commencé à voir leurs enfants ne pas parler correctement l'arabe. Ils ont dit, hop, il faut mettre des règles, sinon, à un moment donné, on ne parlera pas bien l'arabe. D'accord. Donc, à chaque fois qu'il y a un danger qui va toucher quelque chose, une science qui existe, les savants vont y mettre des règles, et la même chose pour la spiritualité. Le soufisme, bon, il y a des soufis qui sont dérapés, mais dans la totalité, à un moment donné, quand les gens ont commencé à oublier le côté spirituel de l'islam, des grands savants, ils ont dit, même la spiritualité, il faut qu'on lui fasse des règles et une méthodologie afin de garder ce côté qui est le cœur de l'islam. Me forme, Inch'Allah. Alors, chaque science doit avoir 10 principes. يعلم أن مبادئ كل فن عشرة. Chaque science, je parle de la science religieuse bien sûr, que ce soit la science du fiqh, usul fiqh, tawhid, hadith, qira'at, doit avoir 10 principes. Nous, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la science du tawhid. Alors, la science du tawhid, elle a plusieurs synonymes. On l'appelle la science du tawhid, écrivez. On l'appelle la science de usul ad-din. Usul ad-din, c'est-à-dire les fondements de la religion, bien les racines ou les bases de la religion. Usul ad-din. Donc on l'appelle la science du tawhid, on l'appelle la science de usul, c'est-à-dire les origines, les fondements, ad-din. On l'appelle aussi al-aqida, la croyance. On l'appelle aussi le grand fiqh. Al-fiqh al-akbar, l'imam Abu Hanifa qui l'appelle comme ça. Le grand fiqh. Vous avez le petit fiqh, le grand fiqh. Le petit fiqh, c'est la jurisprudence, comment on prie, etc. Et le grand fiqh, c'est la croyance. Et on l'appelle aussi ilm al-kalam, la science du kalam. On lui a donné ce surnom-là, puisque c'est-à-dire une des grandes questions de cette science qui a été traitée au début, c'était la parole d'Allah, est-ce qu'elle est créée ou incréée? On va parler de cela, Inch'Allah, le moment venu. Alors, chaque science, cette science de tawhid, quels sont ces 10 principes? Premièrement, sa définition linguistique. La définition linguistique de la science de Tawhid vient de l'unicité. C'est-à-dire, elle traite de l'unicité. C'est-à-dire, définition linguistique, c'est parler de l'unicité. Linguistiquement, pas terminologiquement. Alors, c'est une science à partir de laquelle on prouve la croyance dont on est obligé de croire. C'est la science qui nous permet d'avoir accès à cette croyance. D'ailleurs, je te donne le livre saint, viens, voilà, bismillah, tiens le Coran, retire-moi ce que je devrais croire. C'est difficile quand même. Mais un savant qui va te dire, voilà, ça c'est un livre de croyance, voilà ce que tu vas croire, etc., c'est lui qui va, pas lui seulement, des grands savants, il faut croire un calme, ils vont nous retirer toutes les choses obligatoires dont nous devons croire. Donc c'est la science qui nous permet, c'est-à-dire tu as une science, la science du tawhid, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois croire en tant que musulman? Je dois croire que Allah, il est unique. J'ai dit tout à l'heure, Allah, il est unique dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Qui m'a dit que c'est qui m'a dicté, qui m'a appris? Est-ce que tout seul je pourrais, s'il n'y avait pas cette science-là, des savants qui ont utilisé cette science-là pour arriver à ce résultat-là? D'accord. Donc c'est eux qui, en utilisant cette méthodologie, cette science, ils vont arriver à cela. Ils me facilitent la tâche. Parce que si je suis seul, je prends le Coran, est-ce que je vais arriver à cela? C'est possible que j'arrive à deux, pas à troisième. Ça, c'est le premier principe. On n'a pas encore terminé sa définition. En se basant, continuez, sur des arguments authentique tels que les versets, c'est-à-dire tangibles, tels que les versets, le Coran, il est authentique, et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la croyance ne peut être basée sur quelque chose qui est faible, ou qui est... Il faut que l'argument qu'on rapporte, il faut qu'il soit authentique, sûr que le prophète il l'a dit, et certain. Parce que ce n'est pas une question d'abolition, c'est une question de croyance. D'accord ? On ne peut pas se baser sur des arguments possibles, ou bien... D'accord ? Verset indiscutable. Le hadith, le prophète l'a dit, c'est indiscutable, sûr qu'il l'a dit. Il n'y a pas dans sa chaîne de transmission un problème. Ou... D'accord ? Alors, deuxième principe, qu'est-ce que cette science étudie ? Cette science étudie tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes dans l'obligation de leur attribuer et ce qui nous est interdit de leur attribuer. C'est-à-dire, cette science étudie ce qu'on doit attribuer à Allah et ce qu'on n'a pas le droit de lui attribuer, ainsi qu'à ses prophètes. Aussi, elle nous enseigne tout ce que nous devons croire et qui concerne le monde de l'au-delà, comme le paradis, l'enfer, les anges, le jugement dernier, etc. On traitera tous de cela. C'est quoi les anges? C'est quoi un ange? Un ange, est-ce qu'il est masculin, féminin? Est-ce qu'il donne des enfants? On traitera de tout cela, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le deuxième principe. Alors, le troisième principe, quel est le fruit de cette science? Le fruit de cette science, famratuhu, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec des preuves tangibles, c'est-à-dire irréfutables. Hein? Avec des preuves irréfutables tangibles. Quatrièmement, falluhu, quel est le mérite de cette science? Le quatrième principe, le mérite d'une science dépend de ce que traite cette science. Cette science, elle traite de quoi? Elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle a le mérite d'être la meilleure des sciences. Et de ses prophètes. Elle parle d'Allah azzawajal et de ses prophètes. Oui. Bah, dans le fiqh, on ne parle pas d'Allah. Hein. Dans le fiqh, on parle de ce qui est halal, haram, comment tu pries, etc. On ne parle pas des attributs. Vous avez compris? Alors, cinquièmement, son statut, aslou al fara'. Alors, cette science, elle est originale. Et toute autre science découle d'elle. Les autres sciences, elles découlent d'elle. Elle, c'est l'origine et les autres découlent d'elle. Ben, vous avez compris. C'est-à-dire, vous avez une science qui est la mère des sciences, et les autres sciences, ce sont, on va dire, ses filles, ou si vous voulez. C'est-à-dire, sortent d'elle. Ça veut dire, fiqh, tafsir, tout ça. Mais la base, la règle, c'est la science du tawhid. Ça, c'est cinquièmement. Sixièmement, qui a bâti cette science? Qui sont les fondateurs. Donc on est en train de parler les principes de chaque science, que ce soit sa science du fiqh, de théorie, ils ont 10 principes. Alors je vous laisse le soin de répondre. Qui a fondé cette science? Abu al-Hassan al-Sha'ali et Abu Mansour al-Maturidi. D'accord, on les a notés tout à l'heure, hein, les deux grands imams. Les fondateurs de la science de la croyance, pas les fondateurs de la croyance. Croyance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fondée. Mais la science en tant que telle, d'accord, il y a deux grands fondateurs, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi. Alors le nom de cette science, chaque science il lui faut un nom. Donc le nom, l'a dit tout à l'heure, c'est la science du tawhid, c'est la croyance, c'est Usul al-Din, etc., etc. Ça c'est septièmement. Alors huitièmement, d'où elle est tirée cette science? Est-ce qu'elle est tirée de ta pensée? De ma pensée, de la pensée grecque, de la pensée de, je ne sais pas, Feuerbach, ou je ne sais pas, 15, ou je ne sais pas. Non, ni de ma tête, ni de ta tête, ni de sa tête. D'où? Du livre saint et de la sunna authentique. Argumenté par la raison saine. Quel est le statut de cette science? L'obligation. Chaque musulman, musulmane doit apprendre cette science. Ça, c'est le numéro 9. Donc son statut, c'est l'obligation. Pourquoi parlons de statut? Est-ce que, je vais vous poser une question, dans la jurisprudence, on a un chapitre qui concerne les achats, le bouyour, les achats. Comment un musulman, qu'est-ce qui est interdit quand on vend, comment on vend, etc. Est-ce que chaque musulman est dans l'obligation de connaître ça? Non. Pas contre un commerce, il est dans l'obligation de connaître ça. Puisqu'il va pratiquer cela. Il doit connaître qu'est-ce qui est interdit, que ce n'est pas interdit dans le commerce. D'accord? Pas contre la croyance, chaque musulman doit apprendre cela. Celui qui a, on ne va pas vous dire à quelqu'un qui est illettré, tu dois apprendre, non. Lui, on va lui donner dans sa globalité. On va lui corriger sa croyance qui s'il dérape. Mais celui qui peut apprendre, qui a accès à l'apprentissage, il est dans l'obligation. Alors, dixièmement, dernièrement, les questions traitées dans cette science, c'est-à-dire cette science traite de toute chose qui est obligatoire, on va parler des choses obligatoires, et toute chose qui est impossible, et toute chose qui est autorisée. Je vais vous expliquer. Quand on dit le 2 est plus grand que le 1, c'est obligatoire ou non? Est-ce que vous avez quelqu'un qui dit non, c'est 1 plus grand que le 2? C'est pas normal, vous allez en Chine ou bien vous allez en Amazonie ou en Afrique, tout le monde est d'accord. Ça, c'est vrai ou non? Et cette règle de logique, on va l'utiliser dans l'argumentation, puisqu'on va parler avec des musulmans et non-musulmans, parce que comme ils ne croient pas au texte, il faut parler de la raison. Et l'impossible, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est né avant son père? Tout le monde va dire non, c'est impossible. Donc ça, c'est des choses évidentes. Donc on va parler des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont impossibles, de l'ordre de l'impossible, pour arriver à des vérités. Ça, c'est des outils. Et il y a l'autorisé. Est-ce que vous avez vu des gens vivants? Oui. Ils peuvent être morts? Oui. Donc, c'est possible. Il peut être vivant, il peut être mort. Il peut être debout, il peut être assis. Il peut être dehors, il peut être dedans. Mais il ne peut pas être dehors et dedans en même temps. Tout cela, ça, c'est cette science, elle étudie c'est-à-dire ces outils-là. De tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est impossible et tout ce qui est autorisé. Vous avez compris? Donc, ce sont les 10 principes de chaque science. Quand vous apprenez une science, chaque science a 10 principes, il faut les connaître.
Qu'est-ce qui a reposé ça?
Ça a été à peu près au 2e, 3e siècle. C'est des grands savants, ils ont cadré afin que ça change à la des repères. Pour la repérer, il ne faut pas que quelqu'un, n'importe qui, va dire, il va introduire quelque chose à une science. Bon, je vais me limiter à cela. Donc vous avez cet article-là, où vous avez quand même une introduction qui explique un petit peu, qui va être un support à ce qu'on a dit aujourd'hui. Et derrière aussi, vous avez une biographie de l'imam Abou Hassan al-Sha'ari. Alors, vous avez quelques fatwas. Alors, vous avez une fatwa du grand Hafiz Tajdin Subki, qui est un grand savant chafirite, un monument de savoir et de connaissance. Alors, il dit, les hanafites, les chafirites, les malikites, les nobles hanbalites, Dieu soit loué dans leurs croyances, sont comme une seule main, suivant les croyances de Ahl al-Sunnah, adorant Allah selon la aqida du Sheikh al-Sunnah Abu al-Hassan al-Ash'ari. Alors, pourquoi j'ai mis ces fatwas-là dans cet article-là? C'est très important. Parce que je vais sortir, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire, non, écoutez-moi, les Ash'ari, c'est une secte égarée. Bien, viens voir. Je te suis toi ou je suis Subki? Donc, il faut être sérieux. Ça, c'est un grand imam ancien, qui est mort en 1671 de l'Hégire. Alors, vous avez une autre fatwa, qui est en dessous, c'est la même. Vous avez celle de Cheikh al-Bouti contemporain, un des grands calibres aujourd'hui, grand imam. Il dit, les Ash'arites sont appelés d'après le nom de l'imam Ali ibn Ismail Abu al-Hassan al-Ash'ari, et les Maturidis d'après l'imam Abu Mansour al-Maturidi. Les deux hommes sont des figures saillante parmi nos pieux prédécesseurs qui ont fait triompher la croyance du salaf al-sunnah ou al-jama'a. Aucun des deux n'a inventé une nouvelle croyance ni une nouvelle école religieuse. Donc il faut comprendre que ces gens-là ne sont que la continuité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Vous avez une autre fatwa de Cheikh al-Qardawi aussi, qui est un grand savant. Ainsi les malikites et les shafi'ites sont-ils ash'arites? Et les hanafites sont maturidites. De même, les universités islamiques dans le monde musulman sont soit ash'arites, soit maturidites. Al-Azhar en Égypte, Al-Zaytouna en Tunisie, Al-Qarawiyyin au Maroc, Debawand en Inde, ainsi que d'autres institutions et universités religieuses. Donc les choses sont claires, nettes et précises. Donc il ne faut pas chercher midi à 14h. Du Maroc jusqu'en Inde, de la Turquie jusqu'au fond de l'Afrique, Donc, comme on dit de Rana ila Farana. Donc, tous, ils appartiennent aux quatre écoles juridiques et aux écoles, deux écoles sunnites, historiquement pendant 13 siècles et géographiquement aujourd'hui. Vous avez une toute petite minorité, je ne vais pas rentrer dans des conflits, qui existe aujourd'hui, qui ne suit pas ces écoles-là. Je suis direct, franc et précis. Qui se trouve actuellement en Arabie Saoudite, grosso modo. Mais pas tous les Saoudiens, attention. Vous allez trouver des gens qui se disent salafi ou je ne sais pas moi, wahhabi, tout ce que vous voulez, qui sont dans les fatwas, des fois dans le cadre des quatre écoles, des fois en dehors du cadre des quatre écoles. Et qui sont en dehors des écoles sunnites du point de vue croyance, majoritairement. Mais cela dit, on n'a pas le droit de dire que ces gens-là ne sont pas des musulmans, ne sont pas des sunnites. Il y a des divergences, ils sont en dehors des quatre écoles dans la jurisprudence, ils ne sont pas dans les écoles sunnites. Mais ce n'est pas pour autant de dire, parce que ce n'est pas d'une secte égarée qu'on va te traiter de mécréants, etc. Puisque c'est les savants qui disent que les savants ne les ont pas traités de mécréants, etc. Donc celui qui les traite de mécréants, il faut qu'il fasse très attention à cela. Il y a des dérapages, oui, bien sûr, dans la jurisprudence, dans la croyance, des fois qui sont très graves, mais ce n'est pas pour autant de les faire sortir de l'islam. Parce que traiter quelqu'un de mécréant, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Et personne n'a le droit de dire tel ou tel va en enfer ou au paradis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui décide. Dès que les musulmans vont au paradis, que les mécréants vont en enfer, mais on n'a pas le droit de désigner une personne. Il faut faire très attention. Seul juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la sagesse quand on tombe avec des gens, des frères et des sœurs, qui ne sont pas dans cette ligne des quatre écoles. Il faut avoir la sagesse comment leur transmettre ce message-là. Il ne faut pas rentrer en conflit, les agresser, et leur dire, voilà, vous vous êtes égarés. Non. Leur dire, voilà, les universités du monde musulman, historiquement, c'était cadré dans les quatre écoles, et géographiquement, vous allez en Inde, au Pakistan, partout, ils sont soit maturides, soit ash'arites, soit ils appartiennent à quatre écoles. Vous ne pouvez pas être plus avant que le Qurtubi ou le Shafi'i ou... Et j'en passe des centaines de milliers. Une fois, on était avec un cheikh, rahimahullah ta'ala. Il y avait un frère qui commençait à polémiquer avec ce cheikh. Il est mort 101 ans. Il avait 101 ans. Il a commencé, cheikh, il lui a cassé la tête. Cheikh lui a dit, bon, écoute, cite-moi des savants dont tu te bases. Allez. Donc il a commencé. Moi, tel. Il a 17, 18, il a commencé à freiner. Bon, il a commencé à penser. Oui, allez, classe, toi, toute une Oumma, toute une civilisation, toute une histoire, à la 16, 17, 18 savants, là, c'est fini. Il dit, écoute, mon fils, je vais te dire une chose. Il y a combien de lettres en langue arabe? Il lui a dit, il y a 28. Il lui a dit, les savants dont moi je me base et que je suis, fais n'importe quelle combinaison entre ces lettres-là, tu auras un nom d'un savant sunnite. Donc, tellement il y en a des milliers et des milliers et des milliers. C'est pas 16 ou 17. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Oumma à la 16 savants, 20 savants. C'est des milliers, vous avez l'imam Sibki dont on l'a cité, il a fait tout à l'heure, il a un livre qui s'appelle Tabaqat Shafi'iyya. C'est-à-dire les grands savants Shafi'iyyites à travers les siècles. Ce sont des milliers. Notre Oumma, elle est fière d'avoir des centaines de milliers de savants pieux qui ont écrit avec de l'encre d'or la jurisprudence et la théologie, sans parler des mathématiques, de la physique, de l'astronomie, etc., etc. Donc, il faut voir l'islam dans sa grandeur, il ne faut pas le limiter à des idées très restrictives. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa barakatuh Muhammad wa alayhi wa sahbihi wa sallam 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 w